Le bar des sciences. Une émission proposée par Thierry Brassac et le pôle culture scientifique de Montpellier 2. Avec la participation du médecin Alain Corvez, Gérard Drey, enseignant-chercheur, Maurice Ayot, physiologiste et pneumologue. Le thème de ce bar des sciences est « Faut-il se soigner par Internet ?»
Donc, bienvenue à tous. Nous sommes en... Cette fois, c'est moi qui suis derrière l'enceinte. Petit comité pour ce premier bar des sciences. Mais voilà, bienvenue à vous en tout cas. Il y a les fidèles sont là. Public de qualité, bien entendu, comme d'habitude. Nous, c'est pas la quantité qui compte. Hein. Le but du jeu, c'est la qualité des échanges qu'on va avoir. Donc là, on a les trois intervenants. Vous allez voir, je pense qu'il y a plein de choses à échanger avec eux. Voilà, nous, on est bien contents d'ouvrir la saison du bar des sciences avec ce premier bar des sciences. Sur faut-il se soigner sur Internet, on va comprendre aussi, parce que ça nous intéresse, pourquoi vous êtes venu en fait, et qu'est-ce qui vous a intrigué un peu dans cette thématique-là. Voilà, donc je vais laisser la parole au premier de nos intervenants, qui est donc Maurice Ayot. Hein, voilà. Donc il va un peu se présenter, dire un peu qui il est, et puis après on partira sur les questions. Donc en fait... Voilà, vous les découvrirez un petit peu au cours de la soirée ce soir. Voilà, à toi de jouer.
Merci. Bonsoir, donc je m'appelle Maurice Ayot. Je suis médecin au CHU de Montpellier, puis je suis enseignant-chercheur à la faculté de médecine à l'université Montpellier 1. Le titre de votre soirée m'a interpellé parce qu'il y a deux mots. Dans ce titre, il y a le mot « soigner » et il y a le mot « Internet ». Et la raison pour laquelle finalement je suis là ce soir, c'est qu'avec un certain nombre de personnes et puis d'universités, d'établissements dont on va peut-être parler, on a monté cette année une nouvelle formation. Alors, ce n'est pas de la pub pour la formation, mais c'est peut-être aussi de l'information. C'est... qui s'appelle TIC et santé, donc technologie de l'information et de la communication en santé. Et en fait, vous allez me dire, on veut former les médecins à utiliser les nouvelles technologies et l'Internet. Eh bien, pas du tout. En fait, il y a des médecins, il y a d'autres, il y a des différentes catégories et professions qui vont participer à cette formation et qui vont plutôt former de futurs ingénieurs qui ont déjà ces compétences en technologie, mais à utiliser l'information et à savoir la partager dans les milieux de la santé. Parce que comprendre le milieu du soin, puisque le mot soigner est posé, comprendre les besoins actuellement qui existent en matière de soins, en matière de santé, et savoir l'utiliser et l'échanger à travers des médias. Internet en est un, mais il y en a d'autres, et on pourra en parler, eh bien, c'est d'une part utiliser ces nouvelles technologies et au mieux pour la santé des patients, et puis c'est aussi aller de l'avant. Alors, il se trouve que votre question, elle tombe à point nommé, puisque vous savez sans doute que très médiatiquement, la semaine dernière, j'ai entendu la question à laquelle je suppose que tout le monde a une réponse. Acceptez-vous en allumant un des médias qui est chez moi, qui est une boîte carrée comme ça ou rectangulaire, accepteriez-vous de consulter votre un médecin sur Internet? Alors quand vous posez la question comme ça, évidemment...
Faire le sondage, hein, peut-être.
Alors on peut faire le sondage. Accepteriez-vous de consulter un médecin sur Internet? Ceux qui sont pour...
Vous avez le droit de prendre...
Ceux qui sont...
Allez. Ça dépend pourquoi.
Non, c'est oui ou non.
C'est oui ou non, on n'a pas le choix, d'accord.
Bien sûr. Allez.
Ça dépend voilà. Combien ça coûte aussi.
Alors, comme diraient certains, voilà, on ne voit pas tout le monde, mais il y a quelques mains qui se lèvent timidement, d'autres ne se lèvent pas, je ne sais pas, donc on ne va pas continuer le sondage. Voilà, donc poser la question comme ça, évidemment, ça dépend pourquoi, à mon sens, c'est une question qui est mal posée. Qu'est-ce que les nouvelles technologies de l'information et du partage de l'information peuvent apporter à nos malades lorsqu'ils sont atteints d'une maladie ou pour, au contraire, pour éviter et prévenir ces maladies ou mieux les accompagner. Moi, je pense qu'il y a un véritable enjeu ici. Et je suis personnellement convaincu, mais pas simplement par conviction personnelle, mais parce qu'il y a des démonstrations. On est dans un bar des sciences, donc il y a des démonstrations scientifiques qui montrent l'intérêt de ces nouvelles approches dans le milieu de la santé. Alors, ces intérêts sont multiples, je ne vais pas monopoliser la parole. Il y a bien sûr un intérêt parce que ça peut faciliter les échanges entre les médecins entre eux. Hein, c'est ce qu'on appelle la télé-expertise. Vous êtes spécialiste, vous donnez votre avis à un autre médecin. Ça peut favoriser la surveillance. Vous êtes malade, on peut surveiller quelques éléments. Tout à l'heure, on parlait du pouls, donc ça s'appelle la télésurveillance. Vous avez... Il faut intervenir rapidement ou il faut vous faire venir, c'est ce qu'on appelle la téléassistance. Et puis, on peut simplement faire une consultation, effectivement, ça s'appelle la téléconsultation. Et ces quatre grands domaines sont le domaine qu'on qualifie de télémédecine. Et ce terme de télémédecine, dorénavant, vous allez le voir fleurir, certainement avec de façon très foisonnante et de façon peut-être dans un premier temps peu organisée. Mais je pense que l'objectif des gens qui sont autour de cette table, c'est de faire en sorte que ces systèmes d'information soient utiles à nous tous et à nos patients. Donc le fameux décret de télémédecine vient de tomber, si on peut dire. Hein, il a été promulgué le 19 octobre 2010. C'est un décret qui donne des orientations sur l'utilisation de ces nouvelles pratique de soins et qui ouvre un nouveau champ en fait, qui va encadrer ces pratiques. Et effectivement, on est devant une grande question. Moi, je trouve que votre question est importante. Est-ce qu'on peut se soigner? Est-ce qu'on peut améliorer la qualité des soins? Est-ce qu'on peut améliorer la qualité en réduisant les coûts, parce que vous savez que c'est un élément important, en utilisant ces systèmes d'information? J'évite le mot Internet parce que je crois qu'il y a dans l'Internet beaucoup de sous-entendus et probablement sans doute négatifs. Et il y a aussi des avantages et des risques, donc il faudra peut-être discuter ici. Voilà. Il me semble que on est au début d'une nouvelle pratique et qu'il faut en fait accompagner. Et je pense que c'est très important qu'à la fois le milieu scientifique, médical, d'ingénieurs, de réglementation en fait de la santé et le grand public accompagne cette démarche là.
Malade, oui. Ok, donc voilà. Donc nous avons un représentant donc de l'Agence régionale de la santé, donc qui est Monsieur Alain Corvez. Et donc l'acolyte en fait qui travaille ensemble sur cette formation aux technologies de l'information et de la santé, qui est Gérard Dré, ici présent. Voilà. Donc la balle est dans le camp du public pour la première question. Allez, monsieur, première question.
Bon, bonsoir. Juste une question au médecin. Est-ce que ça ne vous énerve pas d'avoir en face de vous des patients qui ont une espèce de vernis médical acquis, donc à droite, à gauche, sur Internet, puisque c'est ça qu'on parle aujourd'hui, et qui peuvent vous contester, vous critiquer, pas vous écouter, en disant « moi, j'ai vu sur Internet ceci, moi, je sais que sur Internet, il y avait cela ». Est-ce que ça ne vous énerve pas profondément?
Moi, ça ne me déchaîne pas du tout. Je pense que c'est une évolution naturelle des choses. C'est vrai que dans le côté parfois un peu consommateur du consumérisme médical, on a toujours un peu parfois l'occasion d'être un peu agacé par effectivement cette demande, mais c'est quand même très positif quoi, globalement aujourd'hui, que les patients prennent en charge leur sujet, et que si on s'arrête pas à ce premier niveau quoi, et qu'on essaye de raisonner globalement, vous le savez, on a quand même intérêt à avoir l'adhésion des patients sur les traitements qu'on met en œuvre. Et c'est vrai que si ça peut paraître banal sur les maladies pas trop graves, sur les maladies les plus sévères, je pense bien sûr dans des logiques comme le cancer en particulier ou des maladies plus importantes, l'adhésion du patient passe souvent par la connaissance qu'on lui donne. Et on va pouvoir parfois aussi aller beaucoup plus loin dans les thérapeutiques qu'on mène, parce que on va travailler sur des notions qui sont parfois des notions que nous on appelle un peu scientifiquement des bénéfices-risques, c'est-à-dire que on va avec vous prendre des risques, mais derrière il y a des bénéfices. Et ces risques, il va falloir qu'on les assume ensemble hein, sur certaines pathologies. Moi je suis de formation hématologue, hein, donc les leucémies, toutes ces choses-là, quand il faut mettre une chimiothérapie à un enfant, quelque chose, il faut expliquer pourquoi on le fait, comment on va le faire, quelles vont être les conséquences, ça va peut-être pas réussir, mais en tout cas ça va être dur. Hein. Il va falloir le passer, mais derrière on a la guérison. Moi je commençais à être un peu âgé, quand j'ai commencé l'hématologie, on perdait 80% de nos enfants. Hein. Aujourd'hui on en perd 20%. Donc grâce à des traitements sévères, costauds, on a beaucoup amélioré, mais les patients, je pense que c'est important qu'ils soient aujourd'hui acteurs de... Alors ça c'est sur le champ du soin, mais aujourd'hui on voit bien que sur le champ de la prévention, sur le champ très amont, et on a tout intérêt à avoir des patients qui sont acteurs. Et ça va nous poser le débat qu'on aura sans doute tout à l'heure, hein, j'imagine. C'est celui d'avoir une capacité critique des choses. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas l'information, c'est la surinformation, et l'information qui n'est pas toujours aussi neutre qu'on veut le voir ou qu'on peut le croire dans ces médias qui nous délivrent un peu tout et n'importe quoi. Et nous, notre rôle, sans doute, aux uns et aux autres, c'est aussi de développer le sens critique, de donner des repères, d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent, et que quelque part on puisse guider les patients dans le choix eux-mêmes de l'information qu'ils ont. Et ça, c'est ça qui est important.
Donc, en complément du deuxième médecin, peut-être, dans sa...
Oui, le complément, c'est de dire en fait que... Enfin, moi, je vais répondre aussi. Ça ne m'énerve pas, ça me fait très plaisir, en fait. Si on était opposé à la critique systématique, ben, ce serait, je pense... ne serait pas des, aussi de formation scientifique et des scientifiques. Je voudrais juste compléter en disant qu'en fait, l'orientation actuelle de la médecine et du soin vise à rendre le patient acteur et acteur principal de sa santé. Voilà. Donc, si vous voulez que les patients adhèrent aux traitements tels qu'ils ont été évoqués, eh bien, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils puissent comprendre les tenants, les aboutissants, les risques, effectivement, ce qu'il faut faire quand il se passe un événement particulier. Et donc, quand ils ont les bonnes informations, ils les utilisent. Et ça, ça a été largement démontré. Alors, c'est un domaine qui est actuellement qualifié d'éducation thérapeutique quand il s'agit de patients, d'éducation à la santé quand il s'agit de grand public qui n'a pas, où on est plus dans la prévention et dans l'encouragement à des pratiques, à des comportements qui permettent de maintenir sa santé. Donc, en accédant à l'information et en accédant à ce savoir-là, et en le partageant de façon intelligente avec le patient, eh bien, en fait, on s'enrichit, on l'enrichit, on s'enrichit, puis on permet d'avoir un meilleur accompagnement des malades.
Une deuxième réaction. Vas-y. Non, c'est pas une réaction, une question.
Oui, ce qui me semble qui sera le plus profondément modifié dans une utilisation, que ce soit Internet ou un autre média, de la part d'un malade, c'est la relation malade-médecin. C'est ça qui va être, a priori, transformé d'une certaine manière. Et on peut imaginer d'ailleurs plusieurs manières. Alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs manières qui sont imaginées déjà de point de vue de l'informatique, mais il y a quand même à la fois un certain intérêt, mais il y a aussi un risque parce que cette relation, elle est porteuse d'une... Comment dire... au moins d'un effet placebo éventuellement ou de quelque chose de positif pour le malade qui pourrait être perdu. Comment vous envisagez la substitution, si on peut dire, de la relation interpersonnelle directe?
Je crois que depuis la publication du décret où il y a eu finalement toute une part des médias qui s'est emparée finalement du sujet de la consultation et de la téléconsultation en fait, hein, on a déjà énormément de réactions médicales et des principaux syndicats médicaux qui disent c'est pas pour demain, et le terme téléconsultation est impropre parce qu'en fait on fait une forme de téléassistance ou de téléconseil, mais on fait pas de la consultation. La consultation, c'est quelque chose qui met en branle souvent des tas de paramètres qui ne sont pas du domaine forcément transférable par des médias, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, palper un foie, avoir une relation particulière avec le patient, on a beau essayer d'avoir tout ce qu'on peut, ça ne suffit pas de ne pas remarquer qu'un malade, il a une anémie, qu'il a un certain nombre de choses. Et puis, je laisse bien sûr de côté tous les paramètres qui sont psychologiques, qui sont dans le vécu. Tout le monde sait bien aujourd'hui que parfois les patients arrivent avec certains mots qui ne sont pas en soi des maladies, mais qui cachent finalement un vécu dans la vie, des problèmes particuliers, des problèmes au travail, des problèmes dans le couple. Et tout ça, ce n'est pas évident de mettre en équation dans une relation médecin-malade que vous donnez. Ça, c'est une vision des choses sur laquelle il est hors de question de réfléchir à la substitution de tout ça. Au contraire, il faudrait même peut-être réfléchir à la préservation de tout ça, parce que c'est l'humain. Et puis, il y a le deuxième sujet qui est aujourd'hui... la consultation qui permet de dépasser des limites naturelles qu'on n'a pas, c'est-à-dire pouvoir aujourd'hui bénéficier d'un avis de quelqu'un qui est ultra spécialisé en tout point du territoire très rapidement, parce qu'il y va finalement de l'intérêt du choix thérapeutique ou bien même de la rapidité de la décision à prendre vers tel centre qui le fait ou tel centre, ça c'est finalement de l'aide, quoi, hein. Donc le problème c'est justement de faire un peu le tri dans tout ça. Moi, je voudrais ramener un peu, bien sûr, par tous ceux qui nous aident dans ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment un vrai problème, comme toujours d'ailleurs, c'est de passer la bonne commande, hein, à des outils. Alors, les ingénieurs, on leur demande de redoubler de créativité, de redoubler d'imagination, d'imaginer le futur le plus impossible. Et aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit de plus en plus, moi, j'ai baigné dans ces sujets-là depuis pas mal d'années, c'est que, alors qu'il y a 10 ans, finalement, on était tous un petit peu prisonniers des bas débits, d'un certain nombre de choses qui faisaient qu'on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait, aujourd'hui, c'est nos organisations humaines qui sont en retard par rapport à ce que les technologies nous proposent. Et donc, on a aujourd'hui vraisemblablement des façons de domestiquer tout ça, mais surtout de leur donner le bon sens et la bonne utilisation. Ce n'est pas simplement pour utiliser le joujou ou pour des choses comme ça, c'est quel en est le bénéfice pour le malade, quoi. S'il n'y a pas de bénéfice pour le malade, il n'y a aucun intérêt à faire les choses. On peut inventer, c'est comme aujourd'hui, vous savez, ces frigos qui vous ont des programmations, ces fours dont vous avez des trucs, vous ne savez pas comment faire cuire le roast beef, parce que vous avez tellement de boutons que bon, il y a des gens qui vous ont inventé des tas de trucs, mais globalement, ce n'est pas votre besoin. Et donc nous, on a des vraies réflexions sur où est le besoin, quel est-il, puis après, on essaiera d'aller sur des choses un petit peu plus compliquées, mais en ne négligeant pas... Enfin, ce qui est assez fabuleux quand on a le contact avec ces professionnels technologiques, hein, un peu, que sont nos ingénieurs, mais au-delà de nos ingénieurs, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, c'est tout le potentiel de leur imagination et à le transformer, nous, en réalisation concrète sur qu'est-ce que ça peut finalement amener demain à un malade que d'avoir cette technologie vue dans un laboratoire comme ça, vite fait, et puis après, comment on peut essayer de la transformer dans quelque chose qui est positif pour les gens.
Je voudrais rebondir sur ce que disait Monsieur Corvez. Donc moi, je travaille depuis pas mal d'années sur tout ce qui est recherche et développement en système d'information. Et c'est vrai que le constat que l'on faisait, c'est qu'on avait du mal à donner un sens à ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on était dans la surenchère, toujours aller plus vite, plus intelligent, plus automatique. Et ce qui m'a plu dans le montage de cette nouvelle formation, c'est qu'on regroupait finalement deux mondes qui s'étaient pratiquement jamais rencontrés. Le monde de la santé et le monde des nouvelles technologies. Et donc l'objectif, le challenge que l'on se met, c'est qu'on forme des ingénieurs qui aient les doubles compétences et qui puissent aujourd'hui donner un sens aux technologies et surtout que effectivement ce soit le patient qui en soit le bénéficiaire. Je crois que c'est ça la clé de la réussite de cette formation, c'est qu'au final on donne un vrai objectif qui est le bien-être, parce qu'il faut aussi parler de bien-être du patient, et nous les technologies ne sont là qu'en support. On a beau avoir les plus belles technologies, on voit aujourd'hui ce qui marche en téléconsultation, enfin, je ne vais pas dire téléconsultation, en téléassistance, c'est ni plus ni moins que de la vidéo qui passe, comme vous aurez sur webcam, etc. Quoi. On est sur des technologies très simples, mais on a ignoré les usages potentiels qu'on pourrait avoir. Voilà. Donc le sens que l'on donne, nous, aujourd'hui, aux technologies, c'est d'accompagner le patient, le personnel médical, pour que les usages et l'acceptabilité soient... Le sens que l'on donnerait à ces nouveaux métiers.
Oui, je rebondis sur ce que vous venez de dire, là, qui est important. J'ai assisté, je disais à Thierry tout à l'heure, cet après-midi, il y avait 4 heures de conférence sur les nanotechnologies à l'INRA. Et c'était un petit peu le même principe. on peut faire n'importe quoi avec des nanotechnologies, et en particulier, on a parlé de l'application de la nanotechnologie à l'alimentation, où on peut vous faire des nano machin chose, des parfums, enfin, n'importe quoi, des gadgets, vraiment. Et on a bien insisté, à la fin, il y a eu l'ancien directeur de l'INERIS à Paris qui a conclu un petit peu en disant, et moi j'ai surenchéri, je le fais aujourd'hui encore, là, maintenant, sur l'importance de bien mesurer le bénéfice par rapport à un risque ou par rapport à une gadgetisation. C'est-à-dire que, et je crois qu'en la matière, c'est le rôle des médecins. Une fois que les techniciens leur ont présenté tout ce qui était possible, de dire, bon, ok, ça je le prends, ça sert à rien, ça c'est plutôt nuisible, pour garder vraiment ce qui est positif, ce qui a un effet positif direct sur la médecine, sur le médecin, sur le patient surtout, pour sa guérison ou la prévention de la maladie. Sinon, ça va être du gadget, avec on fera des belles choses, des trucs qui brillent dans tous les sens, des écrans de tous les côtés, qui serviront à rien et qui coûteront cher à la sécurité sociale. Et on aura on n'aura pas de nanotrous dans la sécu, mais alors des macro-trous, des méga-trous, ce que c'est déjà.
Il semble que vous soyez d'accord.
C'est clair qu'on ne peut être que d'accord. Ce qu'il faut savoir pour rassurer peut-être vos interrogations, c'est que toutes ces... Alors premièrement, moi je pense qu'il ne faut pas limiter l'inventivité, la créativité... Et effectivement, de toute façon, ceux qui vont inventer des choses magnifiques qui ne servent à rien vont très rapidement s'en rendre compte. Et ils le savent, et en matière de santé, ça existe déjà. Il y a des tas d'outils, de gadgets qui ne servent à rien. Donc, quelque part, ça se fait. D'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que, puisque vous interpellez les médecins, et ça m'évoque quelque chose, c'est que on ne va pas, nous, parce que Gérard va nous apporter un magnifique appareil, l'utiliser sans en avoir... évoquer le sens, mais je pense qu'il l'aura déjà fait en amont, et sans savoir si l'utilisation de cette nouvelle approche, de cette nouvelle technologie, est équivalente ou supérieure à la pratique classique. Et sachez également, et c'est pour répondre aussi à monsieur, que dorénavant, et ça fait déjà de nombreuses années, que l'évaluation des approches, de nouvelles méthodes dans les pathologies intègre toujours la notion de qualité de vie, de service rendu et de qualité de vie. Autrement dit, vous allez comparer cette nouvelle approche, cette nouvelle façon, cette nouvelle pratique en utilisant les informations à distance, et vous allez les comparer à l'approche classique dans une démarche méthodologique et scientifique la plus rigoureuse possible, et vous allez non seulement en mesurer les effets, je dirais, physiologiques et physiopathologiques, mais également en termes de ressenti. Et donc, pour répondre à monsieur, ben, effectivement, on verra très rapidement ce qui isole le patient, ce qui altère la relation qu'il a avec son soignant, avec son médecin, avec son kiné, etc. Et donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Je pense que l'utilisation, elle est raisonnée parce qu'elle est validée avec une méthodologie. Et je crois que c'est ça qui peut vous protéger un petit peu.
Ok.
Moi, je voulais bien enchérir sur ce sujet parce que c'est un sujet super intéressant. Ce qui est en train de marquer notre génération, et je pense que le phénomène de l'Internet ne l'a que majoré, c'est l'explosion de la connaissance. L'explosion de la connaissance. Et quand je dis que l'explosion de la connaissance, c'est aussi l'explosion de la méconnaissance. Il en va du patient comme du médecin. Aujourd'hui, finalement, les médecins sont tout aussi préoccupés de la difficulté d'appréhender leur discipline. Ce qui aboutit d'ailleurs à ce qu'on connaît très bien dans nos grands pays développés, c'est qu'on est de plus en plus compétent sur des sujets de plus en plus limités. En un mot, on a choisi l'hyperspécialisation pour essayer finalement de maîtriser une connaissance, et on va donc chez les spécialistes les plus pointus de l'orteil gauche, de l'oreille droite, vous voyez, de la narine inférieure, tout ce que vous voulez. Bon. Et ça, c'est une caractéristique qui est quand même une caractéristique qui nous pose problème à un moment, et ça va nous ramener à ce qu'on peut se dire ensemble, c'est qu'à un moment où globalement, les 20 des 30 dernières années, si vous voulez, de notre vie sanitaire française, elles ont été marquées par l'explosion technologique, par les CHU hyper sophistiqués, par les hôpitaux avec des matériels de plus en plus alors même qu'on est en train de rentrer dans une logique totalement différente, qui est qu'on est en train d'arriver dans ce que nous on appelle, alors je ne voudrais pas aller jusqu'à ce que dit Roselyne Bachelot, la pandémie, parce que ça rappellerait d'autres choses, mais on est rentré aujourd'hui dans l'épidémie des maladies chroniques. On est rentré dans l'épidémie des maladies chroniques. La population vieillit, les malades restent de plus en plus longtemps dans leur maladie, on guérit le cancer, ce qui fait qu'on vit avec un cancer. On a donc des tas de paramètres aujourd'hui qui font que, alors qu'on était sur le sophistiqué de prise en charge et d'actes très pointus, et d'exploration très pointue, on va devenir de plus en plus sur une logique qui va être de passer sur, en fait, la prise en charge au long cours d'un certain nombre de patients. Vous voyez ? Alors ça, c'est quelque chose qui va amener à la réflexion vers de nouveaux métiers. Les nouveaux métiers, bien entendu, on les voit tout de suite venir. C'est-à-dire que, globalement, ça a été évoqué tout à l'heure par mon confrère, c'est que, globalement, le malade, il va rester longtemps dans sa maladie. Il va avoir un diabète pendant 35 ans, il va avoir un cancer qui va avoir pendant 20 ans, 30 ans des surveillances à faire. Et donc, comme il a cette maladie longtemps, il commence à s'y intéresser, quoi. C'est normal. Il va regarder, il va se documenter, il va aller à droite, à gauche. Il va essayer de savoir le pourquoi du comment, poser des questions à son docteur, aller voir plusieurs docteurs pour avoir des avis différents, et pourquoi pas Internet, en somme. Et finalement, il devient acteur de sa santé, et c'est là qu'on va commencer à essayer d'utiliser d'autres choses, c'est-à-dire l'éducation thérapeutique en particulier, c'est-à-dire, et si finalement une partie des choses qui vous arrivent n'étaient pas de votre fait, et comment est-ce qu'on pourrait y agir ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, aujourd'hui, c'est que, et c'est déjà évoqué entre nous, là, ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire que il n'y a plus aujourd'hui une vision d'un docteur qui maîtrise tout. C'est des équipes qui viennent, et en particulier les équipes pluridisciplinaires, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur de l'exercice qu'on appelle intersectoriel, qui font qu'on a les métiers de l'ingénieur, les métiers. On a des tas de métiers qui viennent. Les infirmières avec les médecins. Tout ça fait qu'on a une surveillance à prendre en compte d'un patient sur du long cours avec des tas de gens qui vont s'en occuper. Et l'enjeu devient celui de la coordination, hein, des acteurs. Et non pas nécessairement celui, le fait qu'un tel soit pointu, puisque la résultante, elle est quand même celle du maillon le plus faible. Si vous avez à un moment donné quelques maillons qui sont faibles sur le système de prise en charge, alors vous avez une prise en charge qui n'est pas bonne. Et tout ceci amène qu'on peut réfléchir aujourd'hui à des outils. Alors il se trouve que moi, je suis par ailleurs expert à l'OMS et en santé publique. Et donc, quand on fait aujourd'hui la télémédecine, si vous voulez, ça répond à deux objectifs. Ça répond à des objectifs qui vont être essayés de voir le plus large possible de populations concernées par une connaissance qu'on va amener à des endroits pas faciles. Hein, je pense sur les pays africains, sur des choses comme ça. On a ce besoin-là, si vous voulez, de diffuser aujourd'hui des connaissances que nous, on a peut-être au coin de notre rue. Mais ce n'est pas sûr qu'on l'ait sur les Hauts-Cantons, ce n'est pas sûr qu'on l'ait aujourd'hui sur un certain nombre de parties de notre région. Donc on a besoin aussi de faire en sorte que les gens en bonne santé ne soient pas forcément que ceux qui habitent sur la plaine littorale. Hein, il y a aussi le Languedoc-Roussillon, c'est autre chose. Et puis, on a deuxième sujet qui n'était pas évoqué tout à fait dans la question, mais que je vous ramène tout à l'heure, c'est que nous, on travaille beaucoup en tant que médecin sur la notion de perte de chance. La perte de chance, c'est la mauvaise décision, alors qu'on devrait pouvoir la prendre correctement avec des paramètres qu'on peut aller chercher ailleurs, qui font que, par exemple, aujourd'hui, si vous faites un petit accident vasculaire dans un endroit particulier du territoire ici, et que vous n'avez pas quelqu'un qui fait rapidement l'alerte et qui transmet une information pour faire en sorte qu'il faut vous transporter le plus rapidement possible pour cet accident vasculaire, éventuellement à Montpellier pour vous déboucher l'artère qu'il faut, eh bien vous avez une perte de chance vitale et sans doute même peut-être une perte de chance fonctionnelle parce que vous restez handicapé. Et donc, nous, la notion de perte de chance, c'est toujours finalement le rapprochement de la connaissance la plus parfaite avec la pratique adéquate. Et ça, la télémédecine, c'est un sacré outil.
Globalement, la télémédecine, c'est quelque chose qui coûte moins cher ou c'est quelque chose qui coûte plus cher ?
Là, je vais passer.
Parce qu'on a parlé, effectivement, avec l'OMS et tout ça, c'est une grande question. Mais effectivement, en Afrique, les réseaux haut débit, il y en a moins que dans pas mal d'endroits chez nous.
Non, mais on passe par satellite. Hein, on passe par satellite.
Ouais, c'est qui est encore plus cher.
Mais par exemple, à ce moment, nous, en France, on a un pays sur lequel on a des échanges constants. ben, ça coûte plus cher, ça coûte plus cher. Essayer d'envoyer des médecins dans des endroits, ça coûte aussi assez cher. Hein, donc, il ne faut pas forcément voir ça comme ça. Mais par exemple, avec la Guyane, nous, on a des liaisons constantes par téléphone satellitaire, hein, et par, bien sûr, des logiques Internet via satellite. Hein, ça, c'est clair. Et on travaille sur pas mal de paramètres de la naissance, de l'accouchement, dans le plus gros hôpital de France, hein, qui est à la frontière entre le Brésil, bien sûr, et la France, parce que si on est du côté français, on a tous les avantages de la France. Donc, il y a énormément d'accouchements qui traversent le fleuve, quoi. Hein, donc, donc, on a d'énormes problèmes à gérer là-bas. Et c'est clair qu'on utilise ces technologies-là, hein, de manière quotidienne. Hein. Donc, moi, je voulais simplement dire que, là, vous avez eu quelques exemples, mais... moi, je suis, en fait, je représente la ministre, hein, dans la région. Et nous, on est promoteurs de centaines aujourd'hui, de centaines et de centaines d'applications. Quoi. Je veux dire, il y en a de partout. En fait, le vrai problème, c'est ce qu'a dit monsieur tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut leur donner sens. Il faut leur donner quelque part que ça réponde à quelque chose. Ce n'est pas un truc dans un endroit, un autre truc dans un endroit. C'est est-ce que ça constitue une politique intégrée de prise en charge qui amène à ce que, globalement, tout ça soit donné. Alors, on peut mettre des tas de tuyaux, des tas de fils du haut débit. Si de pas chaque côté, il n'y a pas, finalement... Vous dites, je vais envoyer mon signal là, de cardiologie... Eh ben moi, je peux vous dire que pour arriver à faire avoir au CHU de Montpellier les cardiologues qu'il faut, qui répondent, je peux vous dire que c'est quand même... parce que ça ne se précipite pas sur les gardes, ça ne se précipite pas sur tout ça. Et donc, ce n'est pas si facile que ça de dire j'ai quelqu'un à un bout du fil et j'ai de l'autre qui, quand même, m'apporte une plus-value. Parce que quand vous avez un médecin généraliste qui a une expérience, qui a 40 ans ou 30 ans d'expérience sur le terrain... qui demande au CHU un conseil, c'est pas pour avoir un jeune interne qui lui dise c'est pas grave, machin, alors qu'il est pas spécialiste. Donc on a besoin... Oui, voilà. Donc on a besoin aujourd'hui d'avoir une organisation, et c'est ce que disait tout à l'heure monsieur, c'est-à-dire que où est la plus-value dans ce qu'on met en charge, en place, et la régulation qu'on fait, c'est pour ça que globalement on essaye aujourd'hui d'avoir des cadres et des conventions, un certain nombre de choses. Ce n'est pas pour embêter les choses, mais c'est pour que, quelque part, il y ait des services qui soient à la fois organisés, H24, parce que la santé, c'est H24, sur tout le territoire. Et le Languedoc, c'est un territoire compliqué, compliqué. Et puis, en même temps, que derrière, on ait la compétence qui soit en face, qui est la compétence qui soit en face. Et ça, la compétence, c'est quand même pas toujours mobilisable. Hein. Les professeurs d'université et du CHU, ils sont parfois plus souvent à Hong Kong ou en Chine ou aux États-Unis qui sont derrière leur... Je vais être franc. Hein. Donc on a besoin de gens qui soient là pour soigner les malades et qui répondent aux services qu'on demande. Parce qu'on a des beaux services en vitrine, mais on ne les a pas toujours fonctionnels. Hein. Donc on a besoin aujourd'hui d'aller sur des choses concrètes sur lesquelles on passe des contrats.
Après, s'ils sont à Hong Kong et qu'ils ont leur téléphone portable, a priori, ils peuvent peut-être.
Non.
J'aimerais bien éventuellement, si éventuellement dans la salle, il y a des futurs médecins, en fait, d'avoir peut-être leur réflexion. Je vois qu'il y en a qui dénoncent leurs collègues, là, ce qui est très très bien d'ailleurs. Et éventuellement, ça peut être intéressant d'avoir votre avis aussi et vos réflexions là-dessus, en fait. Ça nous intéresserait d'avoir ça.
C'est pas mon cas, je suis la future médecin. Non, je trouve, bon, on a parlé de ce qui est disponible depuis longtemps, c'est-à-dire des consultations de sites divers sur la santé, plus ou moins fiables. Bon, on a parlé de choses précises qui sont en relation avec l'hôpital, mais dans ce qui vient d'être plus ou moins décidé, peut-être pas encore, mais en projet, je supposais, moi, que c'était quand même une relation avec le médecin référent. Sinon, bon, alors, ou bien c'est une question qu'on peut poser à quelqu'un qui vous connaît déjà, qui connaît votre pathologie ou votre maladie chronique, ou votre, et à ce moment-là, ça ne peut être que le médecin référent, ou bien c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas, et ça relève de la consultation qui nécessite autre chose qu'Internet quand même. Donc je ne comprends pas très bien. Ou bien, si c'est le médecin référent, il fera ça quand de répondre à vos questions sur son programme de la journée. Donc je vois mal comment ce type de choses peut se mettre en place si ce n'est pas simplement pour appeler votre médecin et lui dire « Est-ce que vous pouvez renouveler mon ordonnance qui est plus valable pour la fois d'après ?»
Bon. que vous posez comme question, qui est quasiment la réponse, c'est ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que il ne faut pas tomber dans le fantasme de la téléconsultation. Enfin, c'est complètement un fantasme. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que les gens attendent. Par contre, il ne faut pas négliger la téléconsultation parce qu'il y a des endroits où le médecin n'est pas disponible dans certaines parties du territoire, où on peut avoir une consultation à distance parce qu'on va arriver dans des zones désertiques du territoire et sur lesquelles on a besoin de ça. Donc c'est un peu différent. Mais évidemment que ça ne remplace pas pour le médecin le toucher, la vue, un certain nombre de utilisation d'organes d'essence, quand même, qui sont une part de la sémiologie médicale. Mais en même temps, quelque part, il y a des dizaines d'années que les médecins répondent au téléphone à leurs malades et font de la téléconsultation en donnant un conseil. Le petit n'est pas bien ce soir, il a un peu de fièvre, qu'est-ce que je fais? Globalement, donnez-lui ici ça et ça, il vous connaît, il vous dit, rappelez dans 2 heures si ça ne va pas. Enfin, bon, tous les médecins ont fait ça dans leur vie. Moi, quand j'ai fait de l'hémato, c'est pareil, on avait un malade qui était sous une chimiothérapie complexe. Bon, on ne le faisait pas revenir à l'hôpital immédiatement, on donnait un conseil, et puis si ça ne va pas, bien sûr, rappelez, on décide quelque chose. Donc ça fait des lustres. Et Internet, en soi, c'est un média, hein, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Pour nous, enfin, si vous voulez, Internet, c'est... Le vrai problème aujourd'hui d'Internet, c'est finalement une utilisation dans différents... C'est pour ça que pour nous, ce n'est pas Internet, quoi. Internet, c'est un véhicule aujourd'hui qui prend des formes plus ou moins organisées, sur lequel on l'organise d'ailleurs un peu pour nous, parce que aujourd'hui, quelle est aujourd'hui la différence qu'il y a entre l'Internet classique avec les pages qu'on déroule, comment qu'on a pris un peu l'habitude, deuxièmement, aujourd'hui l'arrivée de l'iPad, ou vous voyez, de ces trucs où on clique un petit peu plus directement pour aller dans des applications, ou bien ce que font parfois plus souvent nos enfants que notre génération peut-être à nous, c'est-à-dire les utilisations de réseaux sociaux, Twitter, Facebook, machin, où là, globalement, on part dans des réseaux de rencontres, quoi. Là, on est dans les... Finalement, pour les gens ici qui sont des scientifiques, quoi, on a du calcul de proba, hein, quasiment. C'est-à-dire que globalement, on utilise les probabilités de se rencontrer sur les mêmes sujets et on fait finalement une analyse factorielle de tout ça qui va nous donner une matrice de résultats qui est ce qu'on veut bien faire, c'est-à-dire l'âge du capitaine ou pas, quoi, hein, on n'en sait trop rien. Et donc, on part parfois dans l'inconnu. Hein. Et donc, on voit bien qu'on a besoin de domestiquer ça. On a besoin de domestiquer ça, mais c'est pour ça qu'il faut lui donner du sens. C'est-à-dire que nous, enfin moi je vous présente le gouvernement, donc on est là pour essayer de donner du sens à un certain nombre de choses, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne maîtrisera pas, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le droit de laisser se dégrader un certain nombre de systèmes qui sont ce que j'ai dit tout à l'heure, la perte de chance pour le malade, en lui faisant croire que, alors qu'il va être navigué dans des réseaux qui sont parfois des réseaux sur lesquels il va avoir des informations qui sont payées par des gens qui ont tout intérêt à vous vendre leur poudre de perlimpinpin parce qu'ils vous ont repéré, parce que vous avez posé 3 questions, ils vous repèrent, ils viennent, ils vous disent « Tiens, je te donne la solution par un produit fabriqué en Chine et machin, toc, toc. Hein, » Et là, on tombe sur des utilisations crapuleuses, hein, on peut vous en le dire. Hein. Et puis, de l'autre côté, ben, quelque part, on ne peut pas non plus rester sur quelque chose de tout figé où on serait dans un état soviétique où on dirait « C'est comme ça qu'il faut faire, on fait que comme ça. » Alors tout le monde sait que l'imaginaire, ça se contourne. Quoi, hein. Donc, l'Internet, ça doit être aujourd'hui domestiqué. Et nous, on pense, et là, je vais les laisser parler, qu'il faut qu'à partir de là, on ait, et c'est pour ça que ça se fait comme ça, ici, on essaye de le faire, il faut qu'on amène de la connaissance, du sens critique et de la capacité de se familiariser avec les gens qui en parlent, avec finalement à la fois une conscience scientifique, une rigueur scientifique et en même temps une éthique.
Et alors, pour compléter et puis rebondir sur votre question, madame, la question qui se pose, effectivement, c'est... En fait, vous posez une question sur l'organisation. Hein, vous dites, bon, tout ça existe, mais premièrement, comment ça va être organisé et est-ce qu'on va chanter, finalement, les interlocuteurs naturels qui sont, effectivement, le médecin référent et tous les acteurs de soins autour du médecin, que sont bien sûr les médecins spécialistes, par exemple, mais également les personnels infirmiers, kinés et autres. Moi, il y a un terme que j'aime beaucoup, qui est employé par le docteur Pierre Simon, qui a beaucoup travaillé sur le sujet au niveau national et qui a développé des applications de télémédecine, qui est la notion de médecine collaborative autour du patient. Autrement dit, il n'est pas question de chanter l'un ou l'autre des acteurs de santé, mais il faut imaginer que quand vous avez une maladie chronique, et je vais prendre cet exemple, ben vous avez la maladie, on a amélioré les soins, donc ça va durer, vous allez garder cette maladie plus longtemps, Et puis, au fur et à mesure du temps, vous allez avoir des, ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire des maladies qui vont se rajouter. D'accord ? Et donc, vous allez consulter pour votre maladie chronique le spécialiste de la maladie, plus un autre spécialiste, plus, etc. Et l'idée, c'est qu'actuellement, ce qui est fait, c'est qu'il peut y avoir aussi un foisonnement de consultations qui ne passe pas nécessairement par votre médecin référent. Et en termes d'organisation, ce n'est pas forcément très efficace. Et il y a des pertes d'informations et peut-être aussi des pertes de chance dans ce cas-là. Autrement dit, on peut... En organisant le partage de l'information, favoriser cette médecine collaborative et favoriser, améliorer finalement le soin apporté. Voilà. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Alors, je dirais, vos questions sont pertinentes, donc il faudrait qu'on vous associe dans une cellule de réflexion, parce qu'il va s'en monter. Donc c'est clair, hein, on cherche les bonnes idées d'ailleurs, hein, c'est aussi ça. Mais vous posez les bonnes questions et heureusement... qu'on ne perd pas le caractère humain de la relation entre le soignant, je ne dis pas médecin malade, mais le soignant et le malade, et qu'on ne perd pas les acteurs essentiels. Sinon, on se perdrait un petit peu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois en tant que médecin.
À qui jouer alors ? Qui, futur médecin, je ne me suivrai pas des yeux. Oui ? Allez, bravo. C'est vous ou pas ? Je ne sais plus si...
Bonjour, moi je travaille au CHU et je me posais la question de la responsabilité du médecin dans les consultations sur Internet. Comme il n'a pas tous les éléments devant lui, quelle serait sa responsabilité ?
Alors, on pourrait presque dire que c'est la responsabilité partagée hein, entre celui qui dit... En général, la responsabilité, elle est celui qui fait l'acte. Hein. Mais celui qui est à distance, on peut toujours dire qu'il a... Aujourd'hui, les tribunaux, les tribunaux ont plutôt tendance à aller sur la juridiction civile, hein, c'est-à-dire on partage les responsabilités. Mais tel que c'est prévu aujourd'hui dans la législation, la responsabilité est toujours à celui qui est in fine celui qui fait l'acte. Hein. Bon, alors, c'est plus trop le problème aujourd'hui, ça, parce que paradoxalement, enfin, c'est avec ici le professeur Marès. On a mis il y a 10 ans des réseaux de télémédecine sur la périnatalité, hein, sur la grossesse, notamment pour la Lozère. On n'arrivait pas à voir les gynécologues, les obstétriciens qu'il fallait. Ce que vous dit Pierre Marès, qui a été un ardent partisan de tout ça hein, sur la région, c'est que globalement, ce qui était important quand on a fait ça, c'est qu'on a fait des consultations à distance avec des femmes qui étaient, comme aujourd'hui, les enjeux, vous savez, de la grossesse, c'est prévenir le risque, c'est-à-dire dépister les grossesses à risque et les amener sur les endroits... adéquat avant qu'on ait le risque et qu'il faille travailler en catastrophe. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Pierre Marès, il vous dit, grâce à la télémédecine, on a amélioré la méthode. C'est-à-dire que globalement, vous savez, aujourd'hui, quand on fait une échographie à distance sur une femme, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, on vous fait un bilan morphologique de l'enfant, du bébé que vous portez, et on regarde si, globalement, le bébé, il y a tout ce qu'il faut. Hein, vous avez tous entendu parler de ça.
Je le fais un peu court. Excusez-moi de vous interrompre, mais une échographie à distance, ça consiste en quoi en fait ?
Vous transmettez l'image de l'échographe sur le ventre de la maman, vous le transmettez à...
Mais c'est la maman qui met son...
Ah non, c'est un médecin là-bas, ou quelqu'un, d'accord. Une infirmière, qui n'est pas forcément la...
Mais qui n'est pas capable d'interpréter les images.
Ouais. Mais qui n'a pas toutes les compétences. Vous envoyez l'image dans l'équipe du professeur Marès, qui est réduit à ce moment-là en téléstaff, en télé-expertise, et eux, ils regardent. L'intérêt, le danger... c'est que vous ayez une image, c'est ce que dit madame ou mademoiselle, je ne sais pas, mais le danger, c'est que vous ayez une image sur laquelle il prenne une décision alors qu'il n'a pas eu tous les paramètres. Et par exemple, vous savez, on regarde les cavités cardiaques en particulier. Il y a des choses sur lesquelles on essaie de voir s'il n'y a pas des communications interoculaires, interarticulaires. Bon, on regarde ça pour dire l'enfant est normal. Si vous ne passez pas par-dessus, vous pouvez dire à distance, c'est normal. D'accord ? C'est celui qui a fait l'acte là-bas qui n'est pas passé au bon endroit. Et donc, tout ce qui s'est passé dans l'amélioration de tout ça, c'est de travailler ensemble sur les images et les techniques les plus parfaites pour que celui qui prend et celui qui reçoit soient vraiment en synergie parfaite. Et ça, c'est tout le boulot qu'on a à faire sur la télémédecine. C'est-à-dire que l'information qu'on véhicule, c'est l'information qui nous permet de prendre la décision. Sinon, il ne faut pas prendre la décision. Et donc, il y a un énorme travail de méthode et d'amélioration de la méthode autour de la télémédecine. Quoi. C'est-à-dire que vous ne transmettez pas des images aujourd'hui de télémédecine n'importe comment. Ce n'est pas simplement une image qu'on envoie. C'est une image qui permet la décision.
Je suis interne en psychiatrie aussi. Alors, c'est pour répondre un peu à votre question et aussi dire un petit peu ce que je pense. Clairement, en psychiatrie, moi, je pense que la téléconsultation, c'est pas possible du tout, parce que de toute façon, en psychiatrie, il n'y a pas juste ce que le patient dit, il y a sa présentation, façon comment il arrive en consultation, le regard avec le thérapeute, s'il regarde, etc. Donc, ça, en consultation, il va pas regarder, enfin, il regardera la webcam ou pas, enfin, bon, ça, c'est pas possible, quoi. Moi, je pense qu'il y a quand même deux points de vue. Il y a du côté du médecin, quand même, tout ce qui est informatisation, nouvelles technologies, tout ça. Moi, je suis très enthousiaste et d'ailleurs un petit peu déçu parce que dans les hôpitaux, c'est quand même très en retard. On utilise quand même encore beaucoup le dossier papier, ce qui est quand même aberrant, moi, je trouve, alors qu'on pourrait faire les ordonnances, les comptes rendus, etc., directement sur l'ordinateur. Bon, il y a des logiciels qui existent, je trouve qu'ils ne sont pas très intuitifs et ils sont encore très lents. Donc, on perd beaucoup plus de temps, finalement, alors que je trouve que l'informatisation, ça devrait plutôt permettre d'en gagner. Mais ça pose aussi d'ailleurs le problème de la formation des soignants, des infirmiers, etc. Donc pour ça, moi, il n'y a pas trop de problème du point de vue du médecin. Je trouve que c'est très bien. Ça permet aussi de travailler avec les réseaux dans les coins un peu reculés de France. Tout ça, c'est très bien. Je pense que le problème, c'est plutôt du côté du patient, avec d'une part Internet et d'autre part ce que vous appelez la téléconsultation. Tout ce qui est surveillance du diabète, comme vous citiez, ou des problèmes cardiaques, du pouls, etc. Moi, je pense que ça peut faire... Enfin, c'est amené à se développer, et puis c'est très bien. Parce que, d'une part, ça sera... On parlait un peu des coûts tout à l'heure. Je pense que ça peut faire gagner du temps, parce que ça permet aux patients de plus forcément aller en consultation, donc ça peut faire gagner aussi, aussi en coût. Et par contre, bon, les problèmes éthiques, c'est surtout sur Internet, à mon avis. On faut surveiller les sites. Vous parliez tout à l'heure des sites qui étaient agréés, etc. Par exemple, on n'a pas parlé de Wikipédia, parce que c'est quand même le premier site, quand on tape quelque chose sur Google, c'est le premier site sur lequel on tombe. Moi, j'avais entendu parler que sur Wikipédia, finalement, les informations étaient quand même assez vérifiées, parce qu'il y avait tellement de gens qui y allaient que si on mettait une connerie, 20 minutes après, elle était corrigée par quelqu'un d'autre. Donc, je ne sais pas s'il y a des données sur ça ou pas. Bon, voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre.
Moi, je voudrais.
Si je peux juste me permettre, oui. C'est par rapport vraiment en lien avec ce que monsieur a dit, mais moi, c'est vrai que ça m'est arrivé d'être dans une consultation de médecin où le médecin ne me regarde pas, mais regarde son écran et galère à mettre les croix dans les trucs, et puis que c'est plus important que ce que moi j'ai à lui dire, en fait, et c'est vraiment excessivement désagréable, en fait. Alors qu'il est là, en fait. Parce que là, c'est encore pire, c'est de l'anti-télémédecine. En fait. C'est le médecin, il est là, mais en fait, il n'est pas là, il est dans son logiciel où il n'arrive pas à rentrer les bidules. Là, et effectivement, c'était un grand moment de solitude.
Sur la psychiatrie, je ne partage pas votre idée première qu'on ne s'en servirait pas en psychiatrie, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Oui, vous êtes sur la consultation. Mais aujourd'hui, on utilise quand même en psychiatrie, et je pense qu'à bon escient, sans que ça soit aller contre les ligues des droits de l'homme, hein, on utilise quand même la télésurveillance, hein, quand même, à certains endroits. Les logiques d'enfermement, les logiques aujourd'hui de mise parfois dans des chambres de conditionnement méritent, ne serait-ce que parfois par prévention de suicide et de choses, des télésurveillances qui sont parfois utiles. On a des deuxième niveau aussi d'intervention qui est parfois très utile. Vous savez, dans l'autisme ou dans un certain nombre aujourd'hui de pathologies de l'enfant hyperactif et d'un certain nombre de ces syndromes, on a besoin de regarder des comportements et de les filmer. Et ça, c'est une façon aussi de faire de la télésurveillance, mais pour regarder des comportements et essayer de comprendre ce qui se passe. Hein. Donc, il y a des utilisations qui se font déjà sur ça. Alors, la consultation... consultation habituelle, hein, en psychiatrie du patient, non. Mais il y a quand même, il faut réfléchir aussi à chaque fois à ce que sont tous les bénéfices. C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Il ne faut pas sauter. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que face à ça, il faut pas se censurer, tout en restant bien sûr complètement conscient de les limites sur lesquelles on ne doit pas dépasser. On ne doit pas dépasser les limites d'un certain type d'intimité, d'un certain nombre de règles fortes. Hein, là-dessus, mais il ne faut pas se censurer sur des utilisations possibles qui nous amènent à mieux comprendre un certain nombre de phénomènes, et dans la psychiatrie comme dans d'autres maladies. Donc aujourd'hui, on ne l'a pas évoqué beaucoup, là, le problème de la télésurveillance, mais aujourd'hui, la télésurveillance, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur, quoi. Le maintien à domicile des personnes âgées ne peut se faire de manière raisonnée, raisonnable et sécuritaire que si on a quand même des outils de télésurveillance. Bon, aujourd'hui, par exemple, on utilise classiquement, j'en parlais tout à l'heure avec l'équipe, des outils qui permettent de déceler le mouvement ou le non-mouvement d'une personne âgée, qui fait que dès que ça ne bouge plus, que quelque part, pendant quelques minutes, il n'y a pas eu de mouvement d'une personne âgée qui a son, bien sûr, son petit pendentif, eh bien, on est capable de déclencher un centre d'alerte qui va finalement dépêcher soit des numéros de téléphone de voisins, soit les systèmes de secours qui vont aller voir ce qui se passe. Et on peut éviter ce qu'on a connu trop il y a quelques années, des personnes qui passent la nuit au pied de leur lit, qui sont tombées, qui n'ont pas pu se relever, et finalement qu'on récupère très mal après. On a des utilisations importantes de ces sujets-là, quoi, hein, vous voyez. Donc, dans la logique de maintien à domicile, la télésanté, d'une manière générale, tous les... Bon, on n'a pas évoqué, mais là, c'est peut-être, là, je vais vraiment vous passer la parole, c'est toute la domotique. Toute la domotique, c'est-à-dire aujourd'hui, l'utilisation de l'appartement dans des utilisations modernes pour des personnes, pour leur permettre de les maintenir à domicile. On a tous envie de finir ses jours à domicile plutôt qu'à l'hôpital. Et en fait, on a besoin de ces aides et on a besoin de cette sécurité. Et les familles et les aidants en particulier qui sont aussi autour de la personne ont besoin de ça. Et donc ça, on attend beaucoup des ingénieurs.
Mais on travaille là-dessus, sur tout ce qui est domotique. Là aussi, je pense que ce sont des technologies qui sont très anciennes et qui reviennent au goût du jour pour l'accompagnement, notamment des personnes âgées ou des personnes dépendantes à domicile. Je crois que ce sont des technologies toutes simples. On travaille, nous, au niveau du laboratoire de recherche LJ2P de l'école des mines d'Alès, sur toutes les technologies qui permettraient d'accompagner les patients atteints d'Alzheimer à domicile. Donc les aider dans leur vie quotidienne pour leur faciliter tout un tas de tâches qui sont difficiles pour eux et qui leur permettraient d'être indépendantes, enfin, entre guillemets, mais aussi de les maintenir à domicile. Donc là, la technologie vient en aide à ce genre de pathologie sous différentes formes, hein. On a travaillé sur des petits objets assez simples à manipuler où il y a une caméra dessus et puis ça permet de rappeler un certain nombre de reconnaissances de visage ou de reconnaissances d'objets très, 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 très simples. Donc on est à la phase de prototypage. Mais on voit qu'aujourd'hui, on peut aller vers ces outils-là et qui pourraient effectivement améliorer le bien-être de ces patients-là. Donc il y avait une question sur les wikis, effectivement. Tout ce qui est système de Wikipédia, il y a une modération qui est faite par la communauté, mais aussi il y a eu toute une organisation derrière de modérateurs, hein. Donc il y a un contrôle qui est fait, et c'est vrai que ça reste des sites relativement sûrs au niveau de la validité des informations.
Je crois qu'on pourra le maintenir.
Oui, voilà. Après, est-ce qu'on pourra le garantir longtemps? Ça, c'est moins sûr. Je pense que le gros risque aujourd'hui d'Internet, c'est pas l'Internet classique de la page web sur laquelle on consulte ça. Je pense qu'à un moment donné, s'il y a des charlatans, on peut les localiser, on peut l'identifier. Il y a aujourd'hui quand même des systèmes de contrôle qui sont fiables. Je pense qu'aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est tous les réseaux sociaux, où là, effectivement, technologiquement, on aura du mal à maîtriser la circulation de l'information. Ça, c'est clair, c'est le point critique aujourd'hui sur Internet, de la diffusion de l'information. C'est parce que l'information va très vite et très, très diffuse et peut se concentrer sur un petit groupe. Et donc, on a du mal à le localiser de manière automatique. C'est-à-dire, l'information n'est pas centralisée, là. On a du mal à pouvoir la localiser physiquement.
Je vais vous donner un exemple. Bon, vous dites, par exemple, vous lancez sur un réseau social, j'ai une sclérose en plaques, qu'est-ce que je dois faire, hein, globalement? Dans les 10 minutes, vous avez 100, 200, 300, 1000 personnes qui vont venir s'agréger, disant, moi, j'ai ça, j'ai la même maladie que toi, sur un mode friendly, comme on dit. Et puis voilà, j'ai fait ça, j'ai consulté ci, j'ai consulté ça. Puis à un moment donné, il y a les prédateurs qui rentrent. C'est-à-dire qu'ils prennent finalement des logiques caméléons et ils disent j'ai la même maladie, moi j'ai fait ça, j'ai machin, et puis à la limite, envoie un chèque de temps, j'ai le médicament qui va te sauver, quoi. Bon, et hop, on passe sur ces logiques-là. Donc ces informations sont pas... Bon, il y a actuellement des attaques très fortes sur ces sujets-là. On a aussi, et on parlait tout à l'heure de l'éducation thérapeutique, je vais vous laisser en parler, mais globalement, les laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui sont très intéressés à cibler les gens qui ont telle pathologie pour essayer de s'immiscer aussi dans le truc en disant « nous, on a ce produit-là, quoi ». Hein, donc voilà le produit aujourd'hui qui est développé par notre labo, machin, il s'intéresse beaucoup aujourd'hui à ces... Bon. On est un peu rassuré quand même parce qu'une dernière statistique a été faite la semaine dernière, c'est pas vieux, hein, parce que finalement autour de tout ce qui vient de se passer sur le décret, qui finalement est un non-événement, hein, le décret, globalement ça a relancé un peu le débat. Et une dernière statistique a montré que les Français restent assez attachés pour le moment encore au réseau officiel. Hein, tout ce qui est le sujet officiel n'est pas encore trop, mais la crainte elle est là.
Je voulais savoir les moyens de télémédecine qui étaient utilisés. Vous disiez que c'était l'ARS qui choisissait parmi les propositions, on va dire, qui vont être faites, celles qui vont être mises en place. Est-ce que ça veut dire que les moyens de télémédecine vont être différents d'une région à une autre pour une pathologie ou une problématique donnée, on va dire ?
Évidemment. Vous n'allez pas me faire croire que vous pouvez comparer les Landes avec le Massif central ou avec le Nord-Pas-de-Calais. Enfin, je veux dire, il y a des logiques qui sont assez différentes, des populations différentes, des pathologies différentes, des géographies différentes. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas l'ARS qui choisit, en fait. Globalement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, je ne voudrais pas leur faire de la peine, mais on reçoit environ 20 à 25 projets par jour de professeurs Nimbus. Je vais être un peu provocateur. Il y en a tout, il y en a des tas qui ont inventé des tas, le truc qui fait tout, quoi. Vous savez, le machin. Bon, donc on tombe bien dans ce qu'on disait tout à l'heure, des gadgets. On a à peu près 20-25 projets qui nous arrivent. Donc le vrai problème, c'est quoi on veut faire de ces projets. C'est-à-dire que il y en a un qui vous dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bon, eux aussi ils ont fait. Donc et derrière on se dit mais derrière ça. Quelles sont les grandes lignes qu'on va favoriser. C'est-à-dire, hein, on va prendre, par exemple, bon, j'ai un objectif, c'est le maintien des personnes âgées à domicile. Alors, je vais regarder les projets qui concernent ça, et puis je vais dire, si je fais le maintien à domicile des personnes âgées, qu'est-ce que je vais privilégier comme solution technologique, pourquoi pas, mais surtout, comment ça s'applique à telle partie du territoire plutôt qu'à telle autre, ou bien comment ça s'applique à une population plus défavorisée qu'une autre, est-ce que je la pénètre par ces technologies. Parce que les technologies qui ne sont pas pénétrées, c'est-à-dire que le danger, c'est ce qu'il a dit le monsieur tout à l'heure, mais je comprends bien, hein, je réponds un peu vertement, mais c'est que le danger, c'est qu'on fasse briller les cuivres, là c'est déjà brillant, quoi. Parce que c'est tellement plus facile d'aller amener un besoin supplémentaire, enfin un gadget supplémentaire à quelqu'un qui en a déjà plein. Parce qu'à la limite, il peut se le payer ou finalement, on a la solution. Mais notre problème, il n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, on a des personnes âgées, par exemple, dans certaines zones géographiques du territoire, qui sont en difficulté et qui n'ont pas d'autre choix que d'aller à l'hôpital, puisqu'on ne leur apporte pas une technologie qui pourrait les aider à rester chez elles. Et on ne s'y intéresse pas parce que c'est un peu loin et que ce n'est pas la proximité de Montpellier. Et que si vous laissez le marché faire, on va faire de l'hospitalisation à domicile, on va faire de l'aide différente et variée, même sur les insuffisants respiratoires, plutôt à proximité de la ville qu'un peu plus loin. Parce que globalement, ces insuffisants respiratoires-là, ben, c'est facile d'aller les voir vite, de les voir beaucoup dans la journée. Et puis ceux qui sont à 25-30 km, ben, là, si tu peux aller à l'hôpital, c'est mieux. Hein. Bon, donc, on a vraiment ces choix politiques à faire. Et ça, on est vigilant. Je pense, par exemple, vous voyez, à ces structures d'HAD sur l'insuffisance respiratoire. Je ne vous fais pas de dessin, vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai mis comme impératif qu'ils desservent aussi la partie l'ODEV sur l'Hérault. Ce n'est pas que Montpellier, c'est aussi l'ODEV. Hein, et donc, un pôle sur l'ODEV de proximité, parce que sinon, on sait qu'on n'y aura pas sur l'ODEV. Donc, il y a des impératifs comme ça. Mais pour que ça se fasse sur l'ODEV, il faut que j'ai une capacité que le centre de l'ODEV qui est loin soit relié par une technologie pour que, globalement, on puisse avoir les paramétrages qui sont immédiats. Et on rentre dans ce circuit-là. Bon, voilà un peu comment on construit les choses. Il a tendance à nous considérer pudiques, bien sûr, les financements. Les financements. Alors, les financements, il y a deux types de financements, même trois. Le financement à l'innovation. Le financement à l'innovation. On fait un pari sur un financement à l'innovation. Le financement sur quelque chose qui nous paraît d'intérêt général. Donc ça, c'est intéressant. Mais le premier financement à l'innovation, moi, je le travaille sur un deuxième, sur le troisième volet, qui est le retour sur investissement. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis prêt à mettre 300, 400 000 euros sur un projet, 1 million d'euros, s'il faut. Si, par exemple, demain, vous me dites que j'ai fait un projet qui a fait que dans l'année, j'ai évité l'hospitalisation à 200 personnes âgées. en fait le calcul du coût de 200 personnes âgées qui sont allées à l'hôpital, qui ont coûté je ne sais combien. Votre million d'euros, il est largement gagné en termes coût. Après, en termes bénéfices pour le patient, pour beaucoup de personnes âgées, aller à l'hôpital, c'est un crève-cœur. Si on peut, bien sûr, on ne peut pas toujours l'éviter, mais si on peut l'éviter, qu'on amène des solutions qui permettent d'eux, eh bien, le retour sur investissement, il est gagé, donc le paiement, il est fait. Donc, on n'a pas de surcoût à ça. On a simplement un déplacement des crédits. C'est tout. Ça, c'est une technique qui est la technique qu'on utilise. Mais globalement, ce n'est pas, en fait, tout le temps des coûts supplémentaires. C'est une organisation meilleure du système.
C'était le Bar des Sciences. Prochain thème de la table ronde, alimentation et santé.